Bonjour, Mathieu.
Salut, Martin.
Mathieu, tu veux revenir sur l'annonce de la fermeture de certains magasins Rona par Lowe's, annonce faite hier, qui n'a heureusement là, épargné l'Estrie.
Oui, puis moi, c'est, tu sais, l'annonce de fermeture, c'est telle que telle, là. Mais c'est surtout la réaction tout au long de la journée, puis en fin de journée hier, certains partis politiques qui m'ont... découragé, tu sais, qui me dit que je comprends pourquoi des fois des gens s'intéressent de moins en moins à politique par des sorties comme ce qu'on a entendu hier. Parce que ce que j'ai entendu, autant de Québec solidaire que du Parti québécois, c'est que dans le fond, si la caisse de dépôt puis avait pas vendu, j'avais pas laissé, avait bloqué la vente de Rona à Lowe's, et elle n'aurait pas fermé le magasin. Martin, c'est d'un ridicule consommé, ça, cette affaire-là. Mais, tu sais, puis, écoute, j'exagère sur la façon dont certains l'ont dit, parce que c'était pas si clair pour certains politiciens.
Non, je pense qu'on revenait surtout à la base de la transaction, dire que le gouvernement Couillard avait pas fait ce qu'il fallait avec la caisse de dépôt pour maintenir le fleuron. Dans le fond, c'est que on brassait la même réaction un peu. C'était comme une seconde vague là, sur la transaction.
Ça aurait changé quoi? Est-ce qu'on est en train de dire finalement que si Rona avait pas été vendu à Lowe's, il n'y aurait aucun magasin qui aurait fermé?
Un gros doute.
Ben voyons. Martin, tu sais... Là, c'était pas clair à savoir si les 9 magasins du Québec qui ont été visés étaient des magasins qui étaient déficitaires ou pas. Au départ, on disait que non, c'était pas tant ça, qu'ils étaient peut-être moins rentables, mais il y a une marge entre être moins rentable puis être déficitaire. Puis là, après ça, Lowe's a dit non, ils étaient déficitaires depuis un bout de temps. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de les fermer. Faites-vous juste un court survol de l'histoire du Québec. De chaînes qui ont été à 100% propriété québécoise, qui n'étaient même pas toujours dans des compagnies publiques en actionnariat, mais qui étaient entièrement à contrôle privé, qui ont décidé de fermer boutique à un certain moment donné parce qu'il y avait des succursales non performantes. L'histoire du commerce de détail en est remplie. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un tissu de conneries ce qu'on a entendu hier sur l'histoire du contrôle. Là, j'entendais, puis on a ressorti M. Dutton, qui a sorti un livre il n'y a pas si longtemps, Robert Dutton, l'ancien dirigeant de Rona. Mais juste rappeler aussi que moi, je te dis, je le tiens de bonne source de gens qui étaient dans les bureaux, mais on disait à l'époque, Rona, si on avait continué comme le modèle d'affaires comme il opérait déjà sous l'ère de M. Dutton, puis je ne suis pas en train de mettre toute la faute dessus, là. Mais je veux dire, à un moment donné, Rona, là, c'était pas une vente à un Américain qui allait arriver s'il continuait à gérer de même. C'est une vente en morceaux de la chaîne parce qu'elle devenait de moins en moins concurrentielle. N'en déplaise aux partis qui pensent que parce qu'on a le contrôle. Puis tu sais, il y a des études indépendantes qui ont été faites, Martin, là, qui sont excessivement bien montées. Puis sur la solde des compagnies, des fleurons, ou d'appeler ça comme tu voudras, là, les sièges sociaux vendus versus sièges sociaux ou entreprises acquises par des entreprises québécoises, là, puis quand tu fais le solde de valeur, le solde d'emploi, le solde de tout, ça donne que plus de compagnies québécoises qui achètent de leurs concurrents d'ailleurs que des compagnies québécoises qui sont vendues. Mon collègue Gagnon avait fait ça, François Gagnon, qui était il avait ressorti cette étude-là il n'y a pas si longtemps. Là, lui, ça l'énervait parce que ça avait été, tu sais, c'est quelque chose qui avait été monté par, et si je me souviens bien, c'est l'Institut de la statistique du Québec ou le ministère des Finances qui avait fait cette étude-là. C'est pas un think tank de droite, là. Ils ont pris des faits, ils ont pris des données probantes, puis ils arrivent avec ça. Tu sais, il y a une limite là, à dire n'importe quoi. Il y a une limite aussi à essayer de se faire à croire qu'on va être capable de tout garder. Le gouvernement n'a pas d'affaires dans une transaction comme celle-là.
Oui, mais là, t'as vu François Legault, là. T'as entendu ce qu'il a dit, que là, il est à préparer un plan d'action visant à maintenir les sièges sociaux au Québec.
Mais comment qu'il va faire ça?
Ben, écoute, de ce qu'on a écrit là-dessus, il dit vouloir poser des gestes concrets pour protéger nos sièges sociaux sans préciser lesquels.
Bon, mais comment? Tu sais, je veux dire, tu vas faire là, on va faire une liste d'entreprises du Québec, puis là, on va les classer. Là, on va dire, toi, tu es une compagnie, la compagnie X. La compagnie X, ben là, toi, tu as le droit de vendre à n'importe qui parce que t'es pas, on considère pas ça assez important. Mais si t'es propriétaire Y, ben là, toi, tu es important, on te considère comme un fleuron. Tu sais, Martin, le terme fleuron, s'il y a quelque chose qui a été brassé dans les dernières années, là, les fleurons là, de l'industrie, là, à peu près à chaque fois qu'il y avait une entreprise qui était vendue, c'était un fleuron. Alors que si tu avais fait un questionnaire, même dans la communauté d'affaires, il y a un paquet de gens qui ne les connaissaient pas. Tu sais, puis comme moi, la raison, tu sais, M. Legault a beau dire ça, là, tu sais, son seul bras, c'est que si la Caisse de dépôt puis investissement Québec détient le contrôle d'une entreprise, et là, qu'ils mettent des conditions en disant « c'est hors de question que l'on vende », OK, fine, c'est votre seul bras, mais tu ne pourras pas interdire à des compagnies. Va aller interdire à une compagnie, toi, dans laquelle Investissement Québec, la Caisse de dépôt n'a rien à voir là-dedans, puis en plus, tu vas leur dire « ben là, à cette heure-là, si vous voulez vendre, ben vous allez vendre juste au Québec, voyons donc ». C'est qui? Ouais. Tu sais, je vais te dire une affaire. Si j'étais une de ces entreprises potentiellement visées, je te délocaliserais. Le siège social, il plierait bagage avant même que cette loi-là passe. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas faire ça. Ouais. Ça ne se fait pas.
L'affaire des
Je veux juste compléter là, là-dessus vite. Là. Aussi déplorable ça puisse être. Je pense en train de te dire que s'ils gèrent ça, tu sais, Rona puis Lowe's, là, la décision, une décision qui est prise en Caroline, là, pour des magasins du Québec, évidemment, le magasin de l'Ange Gardien s'en sac comme dans l'an 40.
Ah oui.
Il sac de comment
des chiffres.
Ça fonctionnait.
Des chiffres. Ah oui.
Mais je veux juste rappeler que, malheureusement, business is business, puis c'est comme ça que ça... Même si le siège social avait été à Montréal, peut-être que ça aurait fait plus mal, peut-être qu'il aurait plus compté sur l'espèce d'effet de proximité, mais est-ce que la résultante aurait été différente? Prétendre le contraire, moi, je trouve que c'est gros un peu.
Oui, l'affaire des joueurs des Sénateurs d'Ottawa filmés dans un Uber plantant Martin Raymond, l'assistant coach des Sénateurs d'Ottawa.
Tu gères ça comment, toi, si t'es le patron des Sénateurs aujourd'hui?
Ben moi, actuellement, je signe un chèque à Martin Raymond, puis j'ai dit ben plate, mais on va aller voir ailleurs. Le gars, là.
Si tu fais ça, tu penses-tu que tu mets pas.
Mathieu, comment ce gars-là va se retrouver dans la chambre avec le lien? On le sait, là. Les gars, ils ridiculisent. C'est comme dans le temps avec Yvan Cournoyer qui rentrait dans la chambre, puis les gars se claquaient ses genoux tellement ils riaient quand il était assistant coach.
Mario Tremblay, la même chose quand il se mettait à parler en anglais, dans les temps qu'il coachait aussi.
Mais là, quelle crédibilité, même si les gars se sont excusés. Penses-tu vraiment que Martin Raymond, dans le vestiaire, il va avoir une crédibilité? Ben non.
Non, mais t'as un problème. Tu sais, on dit souvent dans le monde du sport, dans un vestiaire, t'as un tiers qui t'aime pas, un tiers qui t'appuie, puis t'as un tiers qui s'en sac. Puis là, le pouvoir, dans le fond, de l'entraîneur balance, c'est sur le tiers de ceux qui s'en sacrent, qui sont les indécis, là, je dis qui s'en sacrent, c'est une façon de parler, là, mais les indécis, qui, si à un moment donné, ils commencent à pencher du bord de ceux qui t'aiment pas, c'est là que tu appelles perdre ton vestiaire. Moi, tu sais, puis c'est drôle parce que hier soir, quand c'est sorti, je jouais au hockey, puis on en parlait dans la chambre, les gars, puis j'étais exactement dans ton camp hier soir. Je me suis dit, écoute, on ne peut pas continuer, ils ne pourront pas le garder là. Puis après ça, je me suis dit, si le gars, les Sénateurs décident de mettre dehors Martin Raymond, quel message que ça envoie de un, Guy Boucher est sur du temps emprunté. Ça, c'est le début de la fin pour lui. C'est le début de la fin du DG. Puis, c'est dans le fond, tu viens de dire aux joueurs. À un gars comme Matt Duchesne, qui a une réputation d'être une pomme pourrie depuis le début de sa carrière.
Oui, mais c'est pour ça qu'il est parti de Colorado, d'ailleurs.
Exactement. Puis c'est la raison pour laquelle ça a pris du temps qu'il sorte du Colorado, parce qu'il n'y a pas grand monde qui voulait l'avoir et était prêt à payer pour ce qui venait avec lui. Mm. Puis ça, cette réputation-là, il est en train de depuis longtemps. Là.
Mm.
Puis on le voit là, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Puis Martin Raymond, moi, j'écoute. Honnêtement, là, des propos comme ça, il y en a sûrement. J'entendais Vincent Danfoss hier à l'antichambre qui disait que c'est quand même rare que ça arrive. Là, c'est pas si. Je me fie à lui, là, il était 20 ans dans la Ligue nationale. Là, il dit tu vois pas ça souvent. Là, des gars qui commencent à blaster ouvertement en groupe un coach. Là, il dit ça va arriver. Martin.
Hey, autour d'une bière, on va dire une affaire, il s'en dit des choses, puis les gars, ils s'assurent que ce qui s'est dit ici à soir, ça va rester à soir.
Oui, mais ce que Danfoss semblait dire, c'est que oui, ça va arriver, exemple, quand tu es avec ton co-chambreur. Tu vas être avec un de tes chums, là, ça peut que ça arrive. Avec ta blonde, c'est normal.
Ouais.
Mais l'autre affaire, c'est qu'arriver à un groupe de 7 comme ça, c'est plus rare.
Écoute, c'est le tiers de l'équipe, là.
Mais sais-tu, moi, j'ai une leçon que je pense qu'on devrait retenir de ça, Martin.
Oui.
C'est que, c'est, tu sais, quand tu, on est dans la sphère publique, là, puis que tu, avec les téléphones maintenant, là, ces gars-là, puis là, on dit, tu sais, puis là, ils se disent, ouais, c'est une conversation privée qui n'aurait jamais dû se retrouver. C'était pas une conversation privée.
Mais non.
Ils ont commencé à le blaster, leur coach, quand le chauffeur de Uber leur a demandé pour qui ils jouaient. Ils se sont mis à partir, puis ils m'ont dit, une affaire, la mèche n'a pas été longue à partir. Là.
Ouais.
Puis, tu sais, ça, c'est à retenir. Puis là, on a beau dire, puis je suis allé lire un peu là-dessus, parce qu'on dit, est-ce que c'est illégal ce que le chauffeur a fait? Il a frappé le bon état, probablement, pour faire ça. Je ne sais pas s'il le savait, là. Mais la loi de l'Arizona est assez permissive. Ça veut dire, elle dit, dans le fond, que deux, trois affaires, que si tu as le consentement d'une des parties prenantes de la conversation, donc ici le chauffeur, techniquement, c'est pas illégal ce qu'il a fait. Puis qu'il y a même une espèce de vieille disposition de loi qui dit que si le gars la personne qui est dans la discussion est une personnalité publique, ben, elle révoque un peu son droit à la confidentialité. T'imagines-tu, toi? Mais là, tu sais, imagine-toi le nombre de fois où je sais que tu n'étais pas comme ça, mais que, mettons, là, vous êtes, je parle aux auditeurs, là, vous êtes ressemblé à une gang du bureau, à un party, une bière après la job au 5 à 7, puis votre boss a passé au cash. Pensez maintenant qu'il y a toujours un téléphone qui peut traîner à quelque part, puis vous savez jamais qui connaît qui.
Les yeux, puis de faire. Ben, c'est toujours aussi à qui tu veux te confier, hein? Et surtout ce type de confidence. Merci, Mathieu.
Salut, Martin.
Merci, mais c'est sûr que c'est une bonne sensibilisation.